Tout de suite, sur France Culture, du lundi au jeudi, c'est déjà presque une habitude, LSD, la série documentaire. Quelques échos du réel, 55 minutes de radio, coups humains, un thème, 4 épisodes, et le documentaire devient addiction. Cette semaine, rediffusion d'une formidable série de Sur les docks de 2009, La mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant par Benjamin Bibas et Emmanuel Chicon, réalisé par Jean-Philippe Navarre. Au départ de cette série, il y a une fascination pour ces pierres tirées de la terre, des cailloux qui peuvent rendre fous, et aussi une envie de regarder au-delà des reflets trompeurs, parce que le diamant, c'est un fantasme. Mais surtout, c'est un travail infernal pour ceux qui creusent et un commerce qui rapporte pour ceux qui vendent. Et accessoirement, c'est un voyage qui raconte nos histoires, coloniales, commerciales, sociales et économiques, l'histoire de rapports de force qui basculent du Congo à Bombay en passant par Anvers et Dubaï. Pour commencer, les personnages. Des creuseurs épuisés et malmenés pour une quête parfois vaine, de prospères vendeurs de diamants, des petits négociants, des acheteuses aguerries du marché local qui revendent au comptoir d'exportation et des foules affairées. Ensuite, le décor. Des routes écrasées de chaleur et de poussière dans le Kassaï oriental, des rues animées, de la circulation, des klaxons, des mines, des gisements, des comptoirs de vente, des officines, des bureaux et des ventilateurs. Aujourd'hui, premier épisode, on est en Afrique, au Congo, et de la mine à la vente, on suit le parcours des pierres.
Moins de 15 000, vous voulez me donner combien ? Donnez-moi 14 000. Non, moi je vous donne 10 000. Ah là ouais. Le creuseur compte son argent. C'est 10 000 francs congolais, comme je viens de lui donner, pour les 5 pierres de Ouikara. Donc nous pouvons dire maintenant que les 10 000 francs représentent 20 dollars.
La mondialisation en 57 facettes.
Nous avons des messages à donner, on ne peut pas les donner.
Un grand voyage dans la petite famille du diamant.
Le message à donner.
Premier volet, Mbujimayi, République démocratique du Congo.
Nous sommes fatigués de creuser le diamant. Nous traversons une situation difficile. Pourquoi le gouvernement ne peut-il pas créer des entreprises pour nous recruter?
Les comptes d'Anderson, Benjamin Bibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre. Avec la collaboration d'Esther Ndalafina.
Kalula Kabilongo, vous êtes chef de village. Vous venez d'écrire votre nom ici sur la terre ocre de Bakwatshimuna, à 5 km environ de Mbujimayi, en plein centre de la République démocratique du Congo où on exploite beaucoup le diamant. Nous sommes réunis avec des hommes, des femmes et des enfants. Pouvez-vous nous expliquer aujourd'hui la situation à Bakwatshimuna ?
Pour le moment, les diamants ne s'achètent pas à leur prix comme avant. Les diamants qui se vendaient dans les temps à 100 dollars, ça se vend aujourd'hui à 9 000 francs, 8 000, même, voire même 10 000 francs. Ces baisses-là nous mettent dans une situation très déplorable maintenant.
10 000 francs, c'est donc à dire environ 20 dollars.
Oui, oui. À l'inverse, les comptoirs qui achetaient le diamant sont fermés. C'est le murmure que nous entendons présentement.
Monsieur Yombo Katalay.
Monsieur Yombo Katalay.
Oui. Tout d'abord, il n'y a pas même la baisse des diamants, mais il n'y a pas même la vente et l'achat des diamants. Nous ne savons pas par où aller vendre. Nous passons un moment très difficile, très difficile. La crise est mondiale. Nous sommes bloqués avec des diamants.
Ici, la plupart des gens à Bakwatshimuna vivent...
C'est grâce au diamant.
Comment font-ils pour vivre actuellement?
La population que vous voyez est très minime. Il y avait une population qu'on ne pouvait même pas donc compter. Nous avons connu l'exode, comme on le dit. Il y a des gens qui ont fui. Il y a une famine terrible ici. Parce qu'il y avait des morts tous les jours ici. Surtout des petits enfants.
Nous sommes les creuseurs. Nous n'avons pas d'emploi. Notre grande activité, c'est de creuser le diamant. C'est le diamant qui nous donne l'argent. Avec le diamant, nous accomplissons tous nos projets. Nous avons épousé des femmes, nous avons eu des enfants. Tout ce que nous avons eu, c'est grâce au diamant. Le diamant, c'est notre vie en RD Congo. Je ne sais pas cultiver le champ, je ne sais pas non plus faire une autre activité. Ça fait 17 ans que je creuse le diamant. Je suis Yamouichi. J'entre dans un puits d'une profondeur de 35 à 40 mètres pour exploiter les diamants que vous voyez ici à la table.
Ça ne fait pas peur de descendre aussi profond?
Je n'ai pas peur. Je n'ai jamais eu peur. Tout en étant creuseur, je me suis marié avec l'argent de diamant. J'ai 5 enfants que je nourris grâce au diamant. Et donc, je ne dois pas avoir peur de descendre en profondeur. Je n'ai jamais eu d'accident. C'est vrai, il y a ceux qui meurent, mais il y a aussi ceux qui ne meurent pas.
Bakwa Chimuna niche dans un cul-de-sac. Au bout de la rue principale du village, derrière un cabanon qui sert de cachot à la police locale, s'étend à perte de vue une zone interdite qu'on appelle le polygone. Il délimite la concession diamantifère exploitée par la société minière de Bakwanga. Plus connue sous le nom de Miba, cette entreprise fondée pendant la colonisation belge est aujourd'hui détenue à 80% par l'État congolais. Sa production annuelle ne dépasse pas 1 million de carats, soit 27 fois moins que l'exploitation artisanale.
Maître Placide Mukendi, vous êtes avocat au barreau de Mbujimayi, capitale du Kasaï oriental. Vous êtes également chercheur en droit minier. Quels sont les acteurs impliqués dans l'extraction des diamants et dans leur négoce?
Dans la chaîne de production artisanale de diamants, nous avons 3 acteurs principaux. Celui que le code minier appelle l'exploitant artisanal, c'est la personne physique de nationalité congolaise qui creuse le sol, qui entre dans le sol et en extrait le diamant. Après lui, il y a celui qu'on appelle le négociant. Il est, selon la loi, personne physique de nationalité congolaise. C'est celui qui achète du diamant auprès de l'exploitant artisanal ou du creuseur pour le revendre au comptoir agréé qui a le monopole de l'exportation. Ce qui est prévu par la loi, c'est que chaque comptoir doit avoir au moins 10 acheteurs agréés. Il y a aussi l'exploitation industrielle, bien entendu, qui est faite par des sociétés. Nous avons l'acteur, l'intervenant principal qui est la MIBA. Actuellement, avec l'avènement du nouveau code minier, il y a plusieurs intervenants, mais dont l'activité n'a pas encore atteint la hauteur de celle de la MIBA. Actuellement, je crois que la population du Kasaï oriental est estimée à plus de 3 millions. Je crois que les négociants et les exploitants artisanaux représentent plus de 60% de la population du Kasaï oriental. Cet afflux de population, ça remonte à partir de 1983.
Pourquoi, au début des années 1980, Maréchal Mobutu a-t-il décidé la libéralisation de l'exploitation du diamant?
Merci bien. On a constaté que le monopole de l'exploitation du diamant était confié à une société créée par l'État, la MIBA. Il y a eu un décret de 1928 qui érigeait en infraction la détention du diamant par les personnes physiques. On a remarqué qu'avec le monopole, cela avait favorisé la fraude. Sous l'avènement du président Mobutu, la libéralisation de l'exploitation artisanale du diamant est intervenue en 82. Sur le plan économique, c'était une mesure salutaire pour l'économie nationale. Et après la libéralisation, la production avait été augmentée de plus de 100%. Alors, ça a attiré surtout la jeunesse qui était à l'âge des scolarités vers cette activité beaucoup plus rémunératrice en peu de temps.
Oh, 3,2.
Cette localité tient sa renommée de l'existence des sites miniers. Elle est aussi réputée pour le travail des enfants dans les mines et la prostitution des jeunes filles, communément appelées les Tumbatu localement, ce qui signifie les Kametons. Ce sont les filles mineures. La pauvreté ici a comme conséquence, première conséquence, donc le moins de 18 ans travaille dans les mines de diamants. Edo Saka, il a 16 ans, il travaille dans les mines. Les produits de son travail est partagé par les membres de sa famille. Il nous donne donc ce témoignage. Oui, effectivement, Edo Saka est en train de dire qu'il s'est retrouvé dans les mines. Il était chez sa tante maternelle à Mujimai. Par manque d'argent, sa tante n'a pas pu supporter ses études. C'est ainsi qu'il suivra ses petits amis pour se taper 500 francs congolais. Dans les mines, il creusait et nettoyait les graviers. Après que les adultes aient tamisé, il lui laissait les restes qu'il aurait tamisé à son tour. Il a déjà gagné 150 dollars qu'il a partagé entre son frère, sa sœur et sa mère.
Laissez-moi manger. Nous ne travaillons pas ces jours. À manger, ça n'y est pas.
Non, papa.
Gagnez d'abord du temps, on reviendra après.
Gagnez du temps.
On va revenir.
Il n'y a pas de médecin ici. Il y a un centre de santé.
Alors quand il y a un enfant qui est en train de visiblement de mourir dans la rue là, ou en tout cas d'être dans un très très sale état avec les mouches qui traînent autour de lui, son pantalon baissé par terre et ses yeux à peine ouverts, on fait rien dans ces cas-là? Enfin, je sais pas. Les habitants, ils font rien?
Ils ne peuvent rien faire. C'est ça la vie ici. Ils ne peuvent rien faire parce que celui-là, c'est un enfant de la rue. C'est-à-dire que c'est un enfant abandonné par ses parents, soit pour un problème de sorcellerie, parce qu'ils y croient, ici, ils croient à la sorcellerie, soit c'est la mère qui ne parvient pas à prendre en charge de l'enfant, on l'abandonne, il souffre, on le laisse à son triste sort.
Et donc là, si rien, si personne n'intervient, il va mourir en fait.
Il va effectivement mourir. Il va mourir parce qu'il n'y a même pas de structure d'accueil, même pas des ONG ici à Bakwachimuna qui peuvent encadrer les enfants de la rue.
Placide, est-ce que vous pourriez nous dire exactement à quoi servent ces outils ici, qui sont vendus sur le marché de Bakwachimuna?
L'outillage constitue l'essentiel du matériel utilisé. Là-bas, vous avez des fers métalliques. Ça sert des fois à casser les pieds pour permettre d'accéder avec facilité au gravier de diamant. Lorsqu'on attache ceci à cette corde, on met du gravier dedans. Lorsqu'on est déjà dans le sous-sol, c'est de la terre, on ne sait pas les transporter dans les mains. On met ici, on attache à la corde, on tire. Et c'est ça qu'on vous a appelé là-bas ascenseur. Vous avez ces machettes, adaptées à la circonstance, vous voyez, c'est une forme spéciale. Tu sais, parce que le gravier, c'est une couche qui est attachée généralement à des roches. Ça permet de les rendre en morceaux. Ça sert de retirer les graviers de ces rochers-là et les rendre en petits morceaux de manière à les transporter avec facilité, les mettre dans les sacs et puis les extraire. Il y a des bêches, vous voyez que le manche est assez court. Comme vous avez vu, les puits dans lesquels le creuseur entre, c'est un puits cylindrique d'une circonférence de plus ou moins un mètre. C'est ainsi que le manche n'est pas assez long, ça lui permet d'entrer avec jusque dans les sous-sols et extraire facilement le gravier.
Et alors ces outils pris individuellement et qui permettent au creuseur artisanal de faire son travail, combien est-ce que ça coûte?
100 francs.
Les sacs, 100 francs.
Bon, 350.
350.
Donc l'ascenseur, 350, qui permet de remonter le gravier. La machette.
300 francs.
0,5 dollars.
La 30 mètres. 6000 francs.
La corde, c'est 6000 francs, ce qui représente 10 dollars. Une grande barre de mine, 3 dollars.
Et les bêches?
1000 francs.
2 dollars. Avec 25 dollars, un creuseur peut déjà commencer son travail.
J'ai passé une nuit à farmer.
Thank you.
Je m'appelle Augustin Kano. Augustin Kano Amkala. Je suis né en Bujimaï. Nous sommes venus ici pour creuser les diamants. Bon, on trouve des petits diamants là, mais nous sommes en train de chercher des grandes pierres, ce qui peut nous avoir des avantages dans la vie. Bon, un carat, 100 dollars, vous êtes au nombre de 10 personnes. Qu'est-ce que vous allez faire avec un 10 dollars en Bujimaï? Le prix de farine, ça compte 4 dollars.
Bon, moi, je m'appelle bien Emile. Je suis venu aussi creuser les diamants ici à Bokwachumun. On a étudié, on est des diplômés, on manque de travail ici au Congo, c'est difficile tout ça. Je suis un électronicien là. J'ai fait 6 ans d'études. On n'a pas trouvé le boulot. Le boulot est tellement difficile. Pour avoir le boulot, donc il faut avoir quand même des familiarités, tout ça. Il faut avoir des frères qui occupent ces places-là juste pour avoir le boulot. Si tu n'as pas des frères qui occupent des places, donc c'est difficile ici au Congo.
En venant creuser, vous avez trouvé peut-être d'autres frères?
Comment quelqu'un peut travailler le diamant seul? Il faut une équipe de 10-5 personnes pour bien creuser. Parce que nous trouvons depuis là-bas de 45 mètres de profondeur pour sortir des graviers.
Et dans une équipe, tout le monde creuse ou il y en a qui creusent, d'autres qui trient, qui vont à la rivière?
Dans une équipe, il y a les gens là qui sont spécialistes juste pour extraire, qui entrent dans des poupes. Maintenant, les gens qui entrent, on les appelle les Yamouchi, les gens qui restent là en haut, on les appelle les Yakoulou, donc les gens qui sont là juste pour tirer les fils et tout ça, tout ça. Après, il y a les gens là qui sont aussi spécialistes juste pour tamiser.
Au fond de la mine, ça se passe comment? Il doit faire noir, non? Surtout que j'ai entendu dire que les mineurs travaillaient beaucoup la nuit.
À n'importe quelle heure, ils travaillent toujours. À n'importe quelle heure.
Et quand ceux qui ont eu le courage de descendre au fond pour ramener le gravier trouvent une pierre, comment ça se passe?
Bon, là, ça va dépendre alors de la volonté de quelqu'un là qui est descendu. S'il a une bonne volonté là de donner aux autres, il peut donner. S'il a la volonté là de cacher, il va juste cacher et aller manger seul, puisque c'est son droit. Il est descendu à un endroit où il y avait beaucoup de risques.
Et donc, c'est quand même plutôt celui qui descend qui décide, de si jamais il trouve une pierre, de répartir les fruits de la vente de cette pierre entre toute l'équipe.
C'est ça, c'est ça.
À combien estimez-vous le revenu moyen d'un creuseur ici à Bujimaï?
Par jour, c'est difficile à estimer, mais je vous dis que c'est vraiment moins d'un dollar. Parce qu'un creuseur peut se retrouver dans une mine pendant un mois et il ne touche même pas 10 francs. Parce qu'il n'a pas encore touché au diamant. Il peut faire une année, ça dépend des chantiers. Il y a des travaux qui vous prennent une année, deux ans. C'est difficile. Parce que c'est comme, je vous ai dit que le diamant, c'est comme de la loterie. Et vous pouvez vous réveiller un jour, vous ramassez un diamant quelque part et vous avez de l'argent.
Qui estime la valeur des diamants qui sont achetés aux creuseurs, maître Mukendi?
C'est ça la base même de la misère du creuseur, parce que lui-même ne connaît pas la valeur du diamant. Les négociants, ce sont des gens qui ont, pour la plupart, qui étaient des creuseurs, et qui ont appris à faire des économies et sont devenus des négociants. Et par contact avec des acheteurs agréés, ils apprennent la valeur du diamant. Mamwe, mamwe, mamwe chukunda, mamwe, mamwe.
Ici, nous sommes devant le mini-marché, tout juste dans le village de Bakwachumun. Maintenant, nous sommes devant les tables des négociants. Le négociant achète le diamant. Ici, les creuseurs quittent avec leur diamant dans deux mines et ils les amènent ici.
Il y a un creuseur qui est juste à côté de nous, qui est en train de faire une affaire, qui est en train de vendre des pierres. Ces quelques pierres, là, j'en vois 5, c'est le résultat de combien de jours de travail?
Presque une semaine ou un mois.
J'ai fait 2 semaines pour obtenir ces 5 pierres. Et même il arrive que je puisse faire un mois, et même plus d'un mois. C'est 8 carats.
8 carats.
Et aujourd'hui, on vous demande de vendre ces 8 carats pour la somme de 10 000 francs congolais, c'est donc à dire environ 20 dollars, c'est bien ça?
Ce prix ne convient pas, parce qu'à l'époque, on vendait ce diamant à très cher, et maintenant, on me propose 10 000, ça ne convient pas.
Plus de 10 ans, on dit à moi, ben, c'est un diamant.
Ça fait plus de 10 ans que j'achète le diamant ici à Bakwachumuna.
Tout le monde est bien, il y a un espoir, tout le monde est bien, tout le monde est bien.
À l'époque, on achetait le diamant On pouvait même payer les études pour nos enfants. Maintenant, on ne peut rien faire parce que les activités ne fonctionnent pas convenablement. Les creuseurs qui allaient au polygone minier ne peuvent plus y accéder facilement. Et les creuseurs ne nous amènent pas le diamant parce qu'ils ne peuvent pas aller le chercher.
Comment ça, les creuseurs qui vont dans le polygone de la Miba, c'est pas une activité illégale, ça ?
Bon, sur votre tour, c'est vrai, c'est bien, mais oui, tout. Après tout, mon centre, vous dites, mine, il y a combien, il y a combien de bilans, il y a combien de soubouillés, tout. Nindambo a creusé, il profitait tout déchet, combien de polygones.
Tous les diamants que nous achetons ne proviennent pas du polygone. Il y a des mines autour de la localité de Bakwachimuna. Et même les creuseurs qui vont au polygone ne vont pas seulement pour creuser. Il y a ceux qui vont juste pour récupérer le déchet de gravier que la Miba a abandonné.
Et donc, aller récupérer le déchet dans le polygone, qui est une zone protégée par l'armée, c'est autorisé ?
Quelqu'un qui travaille là au polygone, il travaille juste pour 100%. Donc tout s'est redevenu, c'est pour lui-même. Alors celui qui travaille à l'extérieur va d'abord enlever dans ce qu'il a travaillé là d'autres pourcentages pour remettre au village. Tout ça est juste pour les intérêts du village.
C'est parce qu'il n'y a pas d'emploi. Le creuseur va jusqu'au point de risquer sa vie au polygone et creuser même dans le puits que la Miba a déjà creusé.
Bujimaï, la ville des diamants, RFI 2005. Ville de 3 millions d'habitants où tout le monde rêve de découvrir un jour une grosse pierre précieuse. Du coup, certains s'aventurent au péril de leur vie sur la concession diamantifère de la société Miba, comme a pu le constater sur place Christophe Boisbouvier.
La concession de la Miba, le polygone, comme on dit à Mbujimaï, c'est un paysage de hautes herbes et d'immenses carrières de gravier. À première vue, c'est désert, presque. Mais quand on regarde bien dans les hautes herbes, on voit des hommes, un sac en bandoulière et un tamis à la main. Ce sont les chercheurs de diamants clandestins. Apparemment, ils ne sont pas armés et ils jouent à cache-cache avec les policiers qui marchent sur la piste un fusil mitrailleur à la main. Ce matin-là, l'ingénieur de la Miba, qui nous fait la visite, s'arrête devant une grue de 100 mètres de haut, la dragline. Il nous présente la machine, jusque-là tout va bien, et puis...
C'est une machine qui est venue des États-Unis, qui a transité par rail le Durban jusque Mweneditu. Bon, signalons tout de suite que nous avons eu quand même beaucoup de problèmes. Voilà les policiers. Les policiers que vous avez vus, ils sont en train de chasser les clandestins. Mais vous voyez le nombre qu'il y a là-bas, c'est pas hyper. Il faut qu'il ait au moins 1000 balles par jour.
Là, ils ne tirent pas sur les gens, ils tirent à l'air.
Ils tirent, ils sont de sommation. Non, il n'est pas autorisé à tirer. Sauf, comme je dis, il y a des cas où ils viennent, des clandestins avec des faux militaires, des militaires armés. Là, il y a échange de tout de suite.
À votre droite, vous avez le début du polygone. Et là où les militaires sont placés, ce sont des endroits que la Miba déjà recensés comme des portes d'entrée des creuseurs au polygone Miba. C'est ainsi qu'on y a placé des militaires. Donc ils ont clôturé pratiquement tout le polygone. Donc à chaque 500 mètres ou moins que ça, vous trouvez un militaire. Et c'est comme ça, c'est pourquoi on appelle ceinture, parce qu'ils sont tout autour du polygone.
Et ils servent à quoi ces militaires ?
Les militaires assurent la sécurité du polygone, c'est-à-dire pour empêcher aux creuseurs ou exploitants artisanaux clandestins de pénétrer au polygone et y voler du diamant. Le polygone délimite la concession Miba frappée des droits miniers exclusifs au profit d'une société que nous appelons la Miba.
Et quand les creuseurs clandestins rentrent sur le polygone pour y exploiter du diamant, ils font quoi les militaires ?
Ils les arrêtent. Il y en a aussi en certains moments qui se livrent à une sorte de complaisance. Ils se font payer par les creuseurs. Et quand ils entrent là-bas, ils vont rencontrer la sécurité qui est là-bas, qui tue dessus. Il y a des morts chaque jour.
La nuit de dimanche à lundi, il y a eu 3 morts au polygone. Ce sont les enfants d'une même famille. Et ils sont morts par éboulement.
Alors la question que je me pose, c'est que avec tous ces dispositifs impressionnants de sécurité, comment ces 3 creuseurs de la même famille ont-ils réussi à pénétrer dans le polygone ? C'est la question que je me pose. Il y a des véhicules qui sillonnent tous les jours avec des policiers lourdement armés au sein du polygone pour chercher là où il y a les creuseurs, éventuellement les arrêter.
Charles Mfouamba, vous avez dirigé une organisation de défense des droits de l'homme, ici à Mbujimaï. Vous êtes natif du Kassai et vous avez publié au tournant des années 90-2000, un rapport documentant certaines violations des droits de l'homme qui impliquaient la grande entreprise d'extraction de diamants, ici au Kassaï oriental, la MIBA, la minière de Bakwanga. Que contenait ce rapport qui vous a valu quelques journées de détention arbitraire, des interrogatoires plutôt musclés?
J'avais mis en exergue des atteintes au droit à la vie, des atteintes à l'intégrité physique et des traitements cruels, inhumains et dégradants qui étaient réservés aux exploitants artisanaux du diamant, mais qui s'hasardaient à travailler clandestinement dans le polygone de la MIBA. Nul n'est secret pour quelqu'un qui a vécu au Kassaï que les cadavres se comptaient chaque jour. D'autres étaient même brûlés dans les puits, dans les fosses. Et il y en a d'autres même que l'on a ensevelis du moment qu'on a considéré les diamants comme une source de financement des activités sécuritaires, donc de la guerre. Toute personne qui touche au diamant a touché à la sûreté de l'État. Et je me rappelle bien qu'il y a eu même un gouverneur qui a dit tout haut, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de cachot. Si vos enfants descendent au polygone, eh bien, on va les abattre. Jusque vers l'année 2003, c'était très fort. Mais à la place de ceux-là qui tuaient comme ça, il y a une forme maintenant de gens qui tuent au polygone. Il y a un phénomène qu'on appelle ici les phénomènes suicidaires. Il y a d'abord des civils, mais il y a aussi des déserteurs de l'armée, de la police, mais il y a aussi des policiers et des militaires actifs qui, pour une raison ou pour une autre, ils disent, bon, nous sommes mal payés, nous ne sommes pas payés, et tout ça, alors qu'il y a le diamant là-bas. Bon, ils forment des bandes. Et quand ils descendent dans les polygones, c'est comme ça qu'ils tuent, ils pillent, ils violent. Et puis, ils s'accaparent de tout ce qu'il y a comme gravier, et puis ils partent.
Vous pouvez avoir des problèmes avec quelqu'un à la cité et quand vous le croisez au polygone, il se transforme en suicidaire. Il peut régler les comptes et vous tuer. Par exemple, un jour, ils m'ont braqué avec leur arme. Ils m'ont tout volé, mes sacs de gravier, mon argent, tout. Quand j'ai demandé pourquoi, ils ont répondu, « Toi, tu ne sais pas que c'est cette arme qui me nourrit. » Qui nourrit ma famille. Il y a ceux qui se promènent avec des mains humaines autour du cou. Ce sont des forces de protection et des forces neutralisantes. D'autres transportent un singe sur les épaules. D'autres se promènent presque nus. Il y a un groupe qu'on appelle pigeons voyageurs. Quand vous leur tirez dessus, ils s'envolent comme des pigeons.
Alphonse Ngoy Kassanji, vous êtes gouverneur du Kassaï oriental. Vous nous recevez dans votre résidence, ici à Mbujimayi, en plein cœur de la République démocratique du Congo. On est toujours assez attentif au contexte lorsqu'on commence un entretien radiophonique et on s'aperçoit que cette résidence est entourée d'un grand parc dans lequel il y a pas mal d'espèces animales et notamment des oiseaux. Il y en a un qui vient de s'élancer d'un arbre ici, de traverser.
Bien sûr, j'aime la nature. J'avais fait la biologie chimie, donc les sciences. La résidence, c'était une résidence officielle. C'est comme ça que nous avons hérité de cette situation-là.
Votre parcours au sein du milieu du diamant, ici, au Kassaï oriental, vous indique comme une personne qui pourrait nous décrire peut-être les évolutions du secteur diamantifère ici à Mbujimayi et ses différents acteurs.
Vers les années 60, c'était facile d'attraper les diamants. Donc on pouvait l'attraper sur la surface de la terre, comme ça. Et ce n'était pas dans les profondeurs. Donc il suffisait de mettre juste une pelle, une bêche. Et vous avez les graviers, vous avez les diamants. Il y en avait partout. Ça progressait aussi vers les années 65, 70. Et vers les années 80, ça commençait un peu à aller vers les profondeurs de 3, 4 mètres. Mais maintenant, pour arriver à attraper les graviers et les diamants, il faut aller à des longues distances, c'est-à-dire en dessous de la terre. Et 30 mètres, 35, 40. Et aujourd'hui, l'activité, au moment où nous parlons ici, vous êtes venus, est par terre.
La MIBA a connu des problèmes d'ordre financier, je crois que ça marche très mal. La MIBA est en train de traverser la période la plus difficile de son existence, dans la mesure où dans l'histoire de la MIBA, nous n'avons jamais connu des arriérés de paiement des travailleurs. Aujourd'hui, la MIBA totalise, Esther, c'est à peu près 18 mois
20 mois.
20 mois d'impaiement. Et quand on sait que la MIBA débourse 2 millions de dollars, en plus ou moins 2 millions de dollars par mois, rien que pour l'enveloppe salariale. Faites ce montant fois 20 mois, vous voyez ce que la MIBA doit au travail. Et ils n'ont plus de nourriture parce que le salaire de la MIBA comportait l'argent liquide plus la nourriture. Un sac de farine, un carton de poisson salé, ainsi de suite. Ça ne vient plus parce que la MIBA dit qu'il a des difficultés dues à ce que l'on appelait en certains moments l'effort de guerre. Vous savez que toutes les guerres qui, du moins après les années 97, toutes les années que nous avons connues ont été essentiellement financées par la MIBA, du moins du côté gouvernement. À la fin de la guerre, la MIBA a eu du mal à trouver de l'argent liquide pour notamment renouveler son outillage et payer les travailleurs. C'est ça qui est à la base de la difficulté aujourd'hui. Les dirigeants de la MIBA, plus le gouvernement, sont en train de toquer les différentes portes pour avoir l'argent. Les travailleurs jusque-là, je crois qu'ils ont touché un ou deux mois par-ci par-là, mais la misère continue.
Bureau d'achat de diamants chez Jean-Pierre Leader Diamond. Adonis Moulenga, un jeune homme très bon, est accompli aujourd'hui. C'est la promesse triomphante Maison et immuable. C'est la révélation DDC. Entière de Dieu. Bureau VH Cash, comptoir Congodia, travail, comptoir KWB, maison d'achat de diamants très fort. Maison de l'éternité, bureau Israël. Comptoir d'achat diamant, Empire. Maison Bougie MK Diamant. Multiservice. Bureau Business Diamond. Bureau Pierre Tomboisaman. Spécialiste Maison en toute qualité. Clivage, conate, colis, caramel, diamant blanc. Moko, mais les propres.
Ça, c'est que j'ai acheté au Mimi Comptoir.
Vous l'avez acheté quand au mini comptoir ce lot de diamants là d'une centaine de diamants qu'on a sous les yeux.
Ça je peux acheter même dans 2 heures, 3 heures, pierre par pierre, mais encore l'autre vient avec des coxeurs.
Le coxeur, c'est le premier des négociants qui est en contact avec les creuseurs et qui récupère leurs pierres, les paye une première fois et après vient vous les revendre.
Oui, d'ici on l'appelle Yakulu, qui va même en brousse, il achète debout pour aller vendre aux grands patrons qui sont dans les tables. Moi, je suis au rang des grands patrons.
Kabeko Kabengele, vous êtes négociant de diamants à Mbujimaï. Vous êtes donc cet intermédiaire qui achète des diamants aux creuseurs et qui les revend ensuite à des acheteurs agréés par des comptoirs à Mbujimaï et jusqu'à Kinshasa. Pouvez-vous nous décrire et nous montrer peut-être les différentes pierres qu'on trouve sur le marché du diamant ?
On a des pierres blanches qui sont très chères, mais d'ici on a des petits morceaux comme celui-ci. Ici, c'est clivage.
C'est-à-dire qu'il y a des impuretés dedans, c'est ça?
Oui. L'autre, on a des petits morceaux de kona.
De kona?
Le diamant qui est des enfants à l'intérieur.
Donc il y a des petits noyaux de diamant à l'intérieur d'une pierre assez impure, en fait.
Oui, c'est ça qu'on appelle le kona. Et encore, les cassés sont les diamants plates.
Les cassés?
Oui. Ça est beaucoup. Auparavant, les clivages de cette qualité, comme les jaunes ici, auparavant, nous achetons à 20 dollars pour aller vendre à 25 par carat. Mais maintenant, c'est Encore avec cette baisse de diamants ici, chez les creuseurs, nous achetons même à 5 dollars par carat pour la revendre même à 10 dollars. Baisse, c'est toujours à partir de l'inverse.
D'inverse?
Oui.
En Belgique?
En Belgique. La baisse de 30%, les diamants ne marchent pas.
Et avant d'être un grand patron, donc un négociant assis, Kabeko Kabengele, est-ce que vous avez été aussi, vous avez commencé dans le métier en étant, donc à la fin des années 80, un négociant debout?
Oui, j'étais un négociant debout, mais auparavant j'étais Yakoulou, et encore j'étais Grézère, et j'ai parvenu d'être acheteur maintenant.
Monsieur Anderson Kibusubusu Kafunga, vous êtes directeur provincial du CEEC, le Centre d'évaluation, d'expertise et de certification du Kasaï oriental. Pouvez-vous nous décrire un petit peu quelles sont vos activités?
Le CEEC s'occupe des activités des comptoirs agréés et éventuellement de la lutte contre la fraude. Nous envoyons des agents délégués pour contrôler les activités des comptoirs, des bureaux d'achat, pour que tout entre vers le circuit officiel.
Quelles sont les différentes techniques pour faire sortir des diamants du territoire congolais en fraude?
Vous savez que nous sommes au Kasaï, c'est au centre du pays. Souvent, de par l'expérience, nous avions constaté, par exemple à Kinshasa, il y a des diamants qui étaient dans le sac de riz pour tromper la vigilance, croyant que c'est le sac de riz qui est exporté vers Brazzaville, alors qu'à l'intérieur, il y a du diamant. Il y a par exemple quelqu'un qui peut filer une pièce de valeur dans ses chaussures, et comme on n'a pas les instruments de détection, il y a facilité de pouvoir voyager avec son diamant sans qu'il ne soit détecté. Une pièce d'un million, ça, vous pouvez même l'avaler. Il y en a qui avalent les colis pour se faire piéger après. Il y en a qui peuvent mettre n'importe où, là où ils peuvent le mettre. Donc les stratégies sont, les méthodes, les techniques sont nombreuses.
Anderson Kibusubusu Kafunga, quels sont les principaux bureaux d'achat de comptoirs représentés ici?
Bon, un comptoir, c'est, il y a beaucoup d'associés dedans, mais je sais que Millennium, c'est pour les Libanais. Je sais que Congodiam également, c'est pour les Libanais. KWB, c'est pour les Congolais. ADC, c'est pour les Congolais. ADEX, c'est pour les Juifs. Donc, nous allons visiter sur le terrain Vyas Cash, c'est un sujet indien. D'ailleurs, il a des difficultés, il ne parle pas français. Il parle l'anglais, l'anglais indien alors. Il y a beaucoup de choses dedans. Mais il comprend le langage de tout le monde. Daba Daba, Moko Moko, là il peut comprendre. Tous ces vendeurs qui sont ici, dans leur majorité, ils n'ont pas étudié les diamants. Ils ont les langages populaires ici. Lorsqu'ils vous disent Moko Moko, nous savons qu'il s'agit des special stone. Lorsqu'ils vous disent par exemple caramel ou quoi, nous savons que chez nous, ça signifie qu'il a par exemple les makeables ou quoi, parce qu'ici, je vous parle d'un langage technique. Lorsque nous établissons un document qui doit être confronté par tout, mais au niveau international, on se remet à un langage qui est autorisé. C'est quelque chose. Nous allons visiter également des Libanais qui sont ici, parce que nous sommes restés avec les Libanais et les Indiens. Les Belges qui étaient ici sont partis.
C'est le voilà, patron, on achète.
Vous êtes dans le bureau de M. Biascash, de Congodiam. Vous voyez, à côté, vous avez les propriétaires de pierres qui sont là. Il est en train de les expertiser avant de conclure le marché. Parce qu'après avoir expertisé, ils vont devoir passer à la négociation. Les autres parlent français, anglais, en même temps la langue locale. L'agent du CEEC est là pour suivre les transactions et certifier tous les achats au niveau de comptoir. Vous avez le bon qui est là.
Le bon d'achat, M. Oui, Anderson, c'est bien ça? Vous pouvez nous le montrer un petit peu? Bon, on ouvre. Qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Comment est-il composé?
Il y a ici, République démocratique du Congo, CEEC, Centre national d'expertise. Vous avez les noms des comptoirs, vous avez nature de substance, quantité, la valeur. C'est fort pas bien ici, je vais vérifier.
Ah oui, c'est vrai, on ne voit pas bien la valeur. Là. Ah, montant en chiffres, regardez. 2500 dollars US. Alors, donc, ça fait.
C'est 42 carats pour la valeur de 2500. 2500, oui.
C'est un petit peu plus de 50 dollars le carat.
Ici, vous avez un colis qu'il a acheté, qui va être mélangé sur d'autres colis, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ça, c'est l'achat d'un individu. Alors, peut-être dans l'ensemble, quand il va terminer à acheter, nous allons prendre tout, mettre ensemble, et à Kinshasa, ils vont trouver la moyenne qu'il faut.
C'est Kinshasa qui, en réévaluant, détermine la moyenne, en fait, de toutes ces... D'accord. Could we have a short interview with you, Mr...
My surname is Vyas, my name is Kashyap. It is a bureau, comptoir is a Congodian.
And it is a Congolese comptoir?
No, he's from Lebanese. He's Lebanese. So I was in Mumbai. So I had in my mind that one time I will go to Africa and buy diamonds.
Okay. And where are you from in India?
We are from Gujarat.
Nous, on coopère avec presque tous les comptoirs qui sont ouverts.
Et aujourd'hui, vous avez amené quel type de pierre à vendre et quel est le prix que vous espérez en tirer?
J'ai amené une pierre de 3 carats qu'on est en train de négocier avec M. Kashyap. Il a donné un prix, je suis en train de raisonner, si ça va. Bon, lui, il vient à peine de me proposer 1000 dollars, il me demande moins de 2000. Mais moi, je suis plus que 3000.
C'est-à-dire que c'est la pierre que je vois ici?
La pierre, elle est blanche.
Et elle fait combien de carats?
3 carats 10.
Vous en demandez 3000 dollars?
Non, je lui avais demandé 4500.
Alors, vous l'avez vendu?
Non, je ne l'ai pas vendu. On ne s'est pas entendu.
Parmi les 5 et les 5 bureaux qui sont restés ici, il n'y a que les 2 bureaux qui drainent beaucoup de clients. Vous avez remarqué ici que c'est presque vide. C'est vide, il n'y a pas d'activité.
Mohamed Bazi, Libanais. Je travaille, ça fait 6 ans. Mais cette année, c'est un peu difficile. Hein. Ce n'est pas le problème d'acheter, c'est le problème à vendre.
On voit dans votre bureau, là au-dessus, l'œil de l'expert, votre bureau de confiance. Vous pouvez nous en parler un petit peu de ça?
Oui, ça, bon, c'est comme les communications, les clients. Hein.
On voit également au-dessus de ce panneau le nom de Dieu, Allah. Et...
La plupart des Libanais qu'ils ont en Afrique, c'est les chiites. Moi, j'étais au Sierra Leone et Guinée, et après ici.
Merci. Bon courage pour les affaires alors.
Merci. Ah, les affaires, non, pour le moment, c'est difficile. Il n'y a pas, tout le monde est parti. Nous, on a l'espoir un peu pour rester, peut-être. Bon. Allô,
partout ici, il y avait des bureaux de comptoir,
oui,
qui ont fermé à cause de la situation qui traverse le pays. Donc, le monde entier, hein, la crise financière. Tous ces milliers, c'est les milliers de comptoirs. Même là, il y avait des comptoirs à son temps. Et il y a même des petits bureaux de négociants congolais qui n'ont plus de clients parce qu'eux-mêmes n'ont pas de liquidité.
Vous savez que les 80% de la production ici est soit industrielle ou semi-industrielle. Donc c'est la qualité achetée par les Indiens.
Et ça fait longtemps qu'on les voit, les Indiens, sur ce marché du near-gem, presque joaillerie, et du semi-industriel?
Depuis longtemps, ce sont eux qui achètent cette qualité, depuis longtemps.
Alphonse Ngoy Kassanji, vous êtes gouverneur du Kassai Oriental. Pour revenir sur votre parcours de négociant, vous avez dit que d'abord vous avez trouvé une pierre de 4 carats qui vous a permis de devenir négociant, et puis progressivement... une dizaine de milliers par dizaine de milliers, vous avez fait 50 000, 100 000, et à un moment, vous avez touché le million, dites-vous.
J'avais touché le million par mon travail. Donc, j'achetais normalement et je vendais. On savait que si vous voulez avoir de l'argent, des millions, l'argent sûr, l'argent cash, c'était chez moi. Donc, c'est cette réputation-là qui avait fait que j'achète une grosse pierre, un gros diamant de 265 carats, donc un diamant exceptionnel.
Vous avez pu le vendre facilement?
Non, ça nous a créé beaucoup de problèmes, jusqu'à être emprisonné. Donc j'ai fait la prison pour ce diamant, là où il était acheté régulièrement. Et j'avais payé toutes les taxes. J'ai quand même vendu à Tel Aviv.
Vous avez touché le million, notamment en stockant, en période de guerre, à un moment où diamant était à un cours très bas. Vous achetiez beaucoup à ce moment-là. Vous l'avez revendu ensuite lorsque les cours ont remonté.
Moi, j'étais spécialiste de toutes les qualités. Donc, j'achetais tous les diamants. Et je prenais mon temps pour observer. Quand j'allais vendre, j'observais comment on spécifie les qualités et les cours sur le plan international. Quand notre pays était en guerre vers la guerre de libération de 1997, cette guerre avait fait que, comme généralement les diamants, on les vendait à Kinshasa. Kinshasa n'était pas encore libéré et il n'y avait pas d'argent. Moi, j'étais parmi les rares qui avaient de l'argent. Et en ce moment-là, j'ai acheté les diamants à moins cher. Quand je suis sorti avec ces diamants, je suis allé vendre à Brazzaville. Ce qui fait que j'avais presque doublé mon argent.
Le Congo Brazzaville, qui est juste en face de l'autre côté, vous voyez à travers le fleuve, était un grand centre d'exportation de diamants. C'est-à-dire que nous avions des taxes qui étaient pas très élevées, mais quand même par rapport au Congo Brazzaville, où eux pratiquement ne faisaient presque rien. Les gens traversaient la rivière et allaient de l'autre côté. C'est là que nous nous sommes aperçus que la République du Congo exportait du diamant, mais il y avait un problème par rapport à leur site d'exploitation. C'est-à-dire que pouviez-vous justifier d'où vient une telle quantité? Et dans le cadre du processus de Kimberley, on a trouvé la solution, c'est-à-dire qu'on a exclu le Congo Brazza.
En effet, quelques années plus tard, Alphonse Ngoy Kassanji n'aurait pas pu exporter ses pierres via Brazzaville si facilement. Car pour enrayer le commerce de diamants issus de conflits armés, la communauté internationale a créé en 2002 un mécanisme de certification d'origine, le processus de Kimberley. Yenga Mabolia en est le coordinateur pour la République démocratique du Congo à Kinshasa. Une tâche ardue dans ce pays en reconstruction, entouré de 10 frontières largement perméables.
Dans le cadre du code et règlement minier, il y a 3 intervenants. Il y a le creuseur qui est au niveau du puits, il y a le négociant qui est l'intermédiaire, et puis il y a les comptoirs chargés de l'exportation. Et généralement, à ce moment-là, où vous trouvez dans les grands centres d'achat, vous trouvez ce qu'on appelle le CEC, le Centre d'évaluation et d'expertise des substances précieuses. C'est à ce moment-là que ces gens constatent l'achat et on commence ce qu'on appelle la fonction de bordereau, où il y a la valeur d'achat et la quantité, et tout ça est constaté par un agent de l'administration des mines et un agent du CEC. Une fois que cela est fait, on fait ce qu'on appelle le scellage. Le contenu est scellé et est envoyé à Kinshasa, parce que le service chargé d'évaluer et d'expertiser le diamant se trouve à Kinshasa. Et une fois que les taxes sont payées, on vous délivre maintenant un certificat de Kimberley qui est contresigné par le CEC, le ministre signe, et ensuite c'est exporté.
Le diamant, lorsqu'il est de grande valeur, ce n'est pas un secret, ça devient comme de la drogue. Là, il n'y a pas de chrétiens, il n'y a pas des hommes corrects, et tout le monde est corruptible dans cette matière. Mon diamant, c'est un exemple que je donne. Mon diamant, je l'estime qu'il est à 1 million de dollars. Je passe par le CEC. Si le CEC l'expertise à 1 million, il va me taxer actuellement les 7% sur les 1 million. Je dois, moyennant des pots de vin, demander aux experts du CEC de l'expertiser à moins de 1 million. La première raison, c'est pour me permettre de payer moins de frais pour les taxes rémunératoires et puis pour me permettre de réaliser plus de bénéfices à la vente, à l'exportation.
Vous voyez, le phénomène de l'artisanat minier est conséquent à l'écroulement de la production industrielle. C'est-à-dire que lorsque vous aviez mis bas, comment dirais-je, il y avait l'effet de rétribution sur les individus, sur les personnes, sur les familles. Toujours est-il qu'une industrie organisée, c'est beaucoup plus facile pour tout le monde. C'est de gros investissements pour aller dans le fond de la terre. La production artisanale fait de l'écrémage, elle ne va pas assez profondément et elle n'est pas assez structurée, organisée. Le souhait, évidemment, avec le code minier, c'était d'avoir des grands groupes industriels qui viennent s'installer ici, qui payent plus facilement des taxes. Comme ça, on peut mieux construire des écoles, on peut mieux financer des universités et tout ça.
Nous avons préféré exploiter les diamants rentrant chez nous.
Les ancêtres nous avaient laissé des champs. Nous nous sommes plus intéressés aux diamants qu'aux champs, cultivons pour consommer les produits de nos champs.
Ils rentrent dans leur village et disent qu'il n'y a plus de diamants à Bakwachimouna et ils ne peuvent pas tenir le coût de la vie à Bakwachimouna, donc il faut rentrer au village.
Ok, ce pasteur Kafuidi de l'église Les Témoins du Christ, église évangélique. Ok, ici c'est notre nouvelle paroisse parce que nous avons notre programme d'expansion au capital diamantifère. Nous avons à peu près 16 paroisses viables. Je peux vous dire, le fidèle là où moi je dirige, hein, je suis en train de diriger à peu près 8000 âmes.
Pasteur Antoine Jean-Pierre Zabala Ditekemena.
Merci beaucoup. Parmi nos fidèles, il y a de Crézer. Et quand il est accompagné par le Seigneur dans une mine, et que le Seigneur illumine les yeux de son cœur, parfois il va attraper une grosse pierre à la dimension que le Seigneur va lui donner. Il est libre de vendre la pierre. Et quand après avoir vendu la pierre, comme la Bible nous exige, il y a l'offrande, il y a la dîme. Et quand il a l'argent, il doit songer maintenant à l'offrande du Seigneur. Il vient donner volontairement.
Juste avant que vous n'alliez rejoindre vos fidèles pour cette cérémonie qui est en train de débuter, une petite précision, pasteur Kafoui, vous ne faites que prêcher ou vous avez aussi d'autres activités ici à Mboujimaï?
J'ai l'activité d'acheter les diamants, je suis en même temps commerçant.
Et vous arrivez à concilier votre activité pastorale avec votre activité de négoce?
Ok, j'ai ce pouvoir-là, et je me partage, il n'y a pas de problème. Nos fidèles sont là, ils sont libres. Ils peuvent avoir de diamants, aller vendre ailleurs, ou bien ils peuvent venir chez moi pour me vendre, il n'y a pas de problème.
Pasteur Kafoudi, est-ce que vous diriez que c'est le Seigneur qui a fait de vous ce que vous êtes, qui vous a permis d'évoluer ainsi de creuseur Yamouchi au fond de la mine à Yakolo, debout, d'abord debout en haut, au-dessus de la mine pour tirer l'ascenseur du puits, et puis ensuite Yakolo derrière, comme ça, sur le mini-market, vous seriez une sorte de négociant debout, petit négociant debout, et enfin, grand patron, assis derrière sur une chaise au mini-market, et puis pasteur, maintenant à la tête de cette communauté de croyants de l'église des Témoins du Christ à Mboujimaï, et grand négociant également de diamants en verre.
C'est le Seigneur qui a fait ça, c'est pas moi. C'est le Seigneur qui est ma force. Il n'y a pas autre chose.
La mondialisation en 57 facettes. Un grand voyage dans la petite famille du diamant. Premier volet, Mboujimaï, République démocratique du Congo. Les contes d'Anderson.
Merci à Jean-Pierre Amoury, Abbas Faki, Baudouin Ieta, Simon Mandouzi-Kilila, Christian Boukou, David Munier, Mathieu Yamba.
Merci également à Sean Blore, Mamadi Kouyaté, Alexandre Essomé, Léonard Loukoumkou, Julien Niamouani, Samuel Turpin et à toute l'équipe de Radio Okapi Mboujimaï, ainsi qu'à tous les creuseurs et négociants qui nous ont prêté leur voix au Kassaï Oriental.
Traduction, Esther Dalafina. Archives de la Sonothèque de RFI, Eugénie Ducré. Mixage, Mathieu Leroy, avec le soutien de Radiophonie Europe.
Sur les docks, Benjamin Vibas, Emmanuel Chicon, Jean-Philippe Navarre.
LSD, la série documentaire, c'est tout pour aujourd'hui. Et c'est une pierre taillée par Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier. Et si vous voulez compter les facettes, bibliographie, lien, et puis nous podcaster pour le voyage ou nous réécouter sous la terre, eh bien c'est sur la page de l'émission sur franceculture.fr. Et vous pouvez aussi nous trouver sur Facebook et nous suivre sur Twitter. Et demain, deuxième étape du diamant, en vert, en Belgique, la part du tigre. Mais dans un instant, juste avant le journal de 18h, on retrouve Hervé Gardette.